France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Ils vivent et travaillent ensemble, couple de danseurs et chorégraphes. Ils fêtent les 20 ans de leur compagnie en adaptant la leçon de Ionesco dans une version jouée et dansée. Marie-Claude Pietragala et Julien Desrouaux seront mes invités à partir de 13h. Mais tout de suite, on critique aujourd'hui deux albums de BD aux univers totalement différents. Le très tourbillonnant Les Gugus en vacances d'Emily Gleeson aux éditions Atrabile et le très queer et chic Candy Superstar et les muses du pop de Claire Translate et Olivier Bernardo, ça c'est chez Delcourt. Vous écoutez les Midis de Culture et ça me touche beaucoup. Et je vous présente les critiques du jour. Lucie Servin, journaliste spécialiste de littérature et de bande dessinée. Bonjour.
Bonjour.
Catherine Robin, grand reporter et critique de BD à Elle.
Bonjour Marie.
Bonjour et bienvenue à toutes les deux.
Allez hop, vacances, tranquille, calme, sérénité.
Allez, allez, dépêche-toi, on va être en retard.
Plus vite!
Je peux pas.
Allez, allez, dépêchez-vous, on va être en retard.
Vive le départ! Vive le départ en vacances!
Merci à Laurence Malonda, notre réalisatrice, pour cette mise en bouche qui illustre très bien le départ en vacances chaotique pour la famille Gugus. Ted, le fils autiste, s'est enfermé dans les toilettes. Le RERB est en rade. Le petit dernier a confondu le sac de sandwich avec la poubelle. La grande ado, elle, est complètement saoulée et l'hôtesse vient de refermer la porte d'embarquement. Voilà le début sur les chapeaux de roue des Gugus en vacances d'Emily Gleeson. Les Gugus ressemblent sûrement très fort à sa famille, mais n'imaginez pas un album réaliste et encore moins documentaire. Ça éclate de couleurs, c'est saturé de sauts, de chutes, de hurlements. Bref, la vie d'une famille aussi épuisante qu'attachante. Emily Gleeson avait déjà consacré un album à la vie de son frère autiste avec Ted, Drôle de Coco, paru il y a 7 ans. Elle avait d'ailleurs reçu le prix Révélation du Festival d'Angoulême. Un premier avis en quelques mots, Lucie Servin.
Alors moi j'ai énormément aimé ce livre et aussi dans la lignée de Ted de Drôle de Coco dont vous venez de parler. Par contre, je dois avouer vraiment à Emily Gleeson que j'aimerais pas partir en vacances avec sa famille, mais c'est justement ça la grande qualité de ce livre, c'est l'écriture en fait de Emily Gleeson qui j'ai rarement vu une écriture qui nous fait autant ressentir le stress, les émotions et tout ça avec un style complètement déjanté, complètement décalé et pourtant on est dans le vrai. Et ce que j'aime beaucoup avec les Gugus autant qu'avec Ted Drôle de Coco, c'est que on a une révolution de l'écriture autobiographique en BD et c'est vraiment une introspection parce que tout est faux mais tout est vrai quoi.
Catherine Robin.
Ben moi je partirais bien en vacances avec eux parce que le pays en plus a l'air assez chouette et attachant, mais c'est vrai qu'il y a une énergie insensée dans cette famille et pourtant elle ne nous épuise pas parce que comme le dit Lucie, il y a une vitalité dans le dessin mais aussi une vraie intelligence de composition et d'écriture chez elle, une liberté totale et surtout une jubilation à dessiner, on la sent et on la partage en fait.
Alors Lucie, on va peut-être un peu décrire les images parce que moi je l'ai fait rapidement, mais c'est difficile hein, d'expliquer tout ce qu'on voit, il y a tellement de choses.
Oui, alors je pense que pour l'expliquer, c'est-à-dire qu'on est on part dans un pays imaginaire qui s'appelle le Yolcam. Il faut savoir que Emily Gleeson a des ascendances mexicaines. Et je pense que vraiment, à travers l'esprit d'un codex mexicain, on peut comprendre un peu son écriture, mais qui est injectée d'un style cartoonesque. Hein. On est dans le dessin animé. Et avec les Gugus, il y a en plus une dimension presque supplémentaire qui est de la dans ce relation au glyphe, enfin à l'image écriture qui est le propre de ces codex mexicains, c'est-à-dire qu'elle va superposer à son dessin l'introspection par le dessin à travers on a des dessins contours avec un contour noir pour dessiner ce qui se passe et des contours au trait de couleur pour dire ce qu'il y a dans la tête de ce personnage. Et je parlais d'introspection tout à l'heure, c'est que c'est le portrait d'une famille mais autant dans Ted, elle s'était infiltrée presque dans la tête de son frère autiste Asperger pour essayer de comprendre comment il fonctionnait. Là, on est dans un livre qui raconte comment fonctionne la famille, l'entourage autour de d'un enfant comme ça autiste, et surtout cette personnage d'adolescente, Eliana qui a ses pensées mauvaises, qui refoule, etc. Donc dans le dessin, ça tourbillonne. C'est une succession de sketch, c'est très cartoonesque et il y a des inventions graphiques presque à chaque page, avec des couleurs aussi très mexicaines, très pop, et voilà, donc c'est ce qui fait que c'est un album assez stressant, assez, mais qui reste pétillant et surtout très très drôle.
Ah, je disais, ça démarre sur les chapeaux de roue, au début on est surpris et c'est ce que vous, pour vous Catherine Robin, on n'est pas épuisé.
Ben non, en fait, j'ai eu l'impression que cette famille s'était lancée dans un 3000 mètres steeple. Je ne sais pas si vous voyez cette épreuve en athlétisme qui est très long, avec beaucoup d'obstacles, et que c'était un 3000 mètres steeple, mais infini, en fait. Et en fait, non, pour toutes les raisons que vient de dire Lucie. Et puis après, il y a, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est donc qu'elle élargit la focale. Elle était sur Ted en 2018 avec ce livre sur ce frère. Et là, elle élargit la focale. Et finalement, Ted, bien que restant au centre de la famille, il n'est pas tout à fait le personnage principal du livre, parce que j'ai trouvé que les deux personnages principaux, bah, c'est le père qui est génial, qui est très enthousiaste, très souriant, toujours dynamique. Il a un copain, donc quand ils partent en vacances, il a un copain qui s'appelle Guy de Miche et Lin, parce qu'il y a beaucoup d'inventions de langage aussi dans son livre. Donc Guy de Miche et Lin est un bibin d'homme vert qui dit au père d'aller visiter telle ruine inexplorée ici et là, et donc il trimballe sa famille à contre-cœur, voilà, mais avec toujours le souhait pour lui de former une famille idéale, parce que je crois que c'est là-dessus la famille normale, entre guillemets, la famille idéale, et il y a un moment par exemple qui est très drôle, où il essaye de, et je pense que plein de familles ont vécu ça, c'est-à-dire la personne qui veut absolument faire la photo de famille et demande à un passant vous pouvez pas nous prendre en photo s'il vous plaît, et l'adolescente Eliana, elle est dévastée de honte, parce que c'est le deuxième personnage principal du livre, c'est elle qui, elle, dit sa difficulté à vivre auprès de cette famille où il ne faut pas qu'elle en rajoute, comme elle le dit dans la préface ou postface, ou je ne sais plus, du livre, mais il ne faut pas qu'elle en rajoute. Et elle dit combien ça peut être douloureux de trouver sa place. Et des fois, en effet, dans ce dialogue interne qu'on voit, intérieur, pardon, qu'on voit chez elle, elle a vraiment une énorme violence à l'égard de ce frère, mais qui n'est que le pendant de l'amour immense, parce qu'il y a aussi des planches d'une tendresse magnifique, notamment une, puisqu'ils partent dans ce pays qui ressemble au Mexique pour un mariage. Et il y a un moment, il y a une scène de danse à la fête de mariage où Ted, qui donc souffre de syndrome d'Asperger, a du mal avec le contact. On ne peut pas le toucher quand il ne souhaite pas. Et là, elle arrive à toucher son frère et à l'entraîner dans une danse. Et là, ils dansent tous les deux. Et à la fin, toute la famille danse ensemble. C'est très beau. Et ce n'est pas du tout gnangnan. Tel que je le raconte, c'est peut-être un peu gnangnan, mais on n'y est pas du tout. On n'est pas du tout dans ce registre-là. Voilà.
Lucie Servin, vous disiez qu'elle a révolutionné le récit autobiographique en bande dessinée.
Ah bah oui, carrément, parce que tout est imaginaire et encore une fois, on est vraiment comme ça dans une espèce de succession de petits sketchs. C'est très burlesque et finalement, on rentre quand même dans quelque chose, dans une introspection philosophique même assez profonde. Et je disais par rapport au dessin, parce que Eliana et cette adolescente qui n'a pas Dieu, qui est dessinée sans yeux et qui en fait a honte de sa famille, ses pensées mauvaises. Mais quand c'est des pensées mauvaises, c'est qu'elle a envie de tuer, hein. Elle imagine toutes les manières de tuer son frère. Finalement, elle, en discutant avec sa famille, ils sont tous imparfaits. C'est aussi un livre sur l'imperfection, sur la confession aussi, donc de ses pensées mauvaises. Sous ces allures complètement délurées, on a un récit initiatique et dans les dernières pages, Eliana ouvre les yeux et ouvre les yeux aussi à travers donc des personnages. Donc il y a Ted, mais il y a aussi son oncle, son oncle révolutionnaire qui a le syndrome de Diogène et qu'elle va adorer. Il y a sa grand-mère qui lui fait une espèce d'incantation pour lui retirer son mauvais clown. Enfin, il y a toutes ces espèces de petites couches, et par petites couches, elle nous raconte en fait l'éveil d'une adolescente. Et ça, pour moi, j'ai rarement vu traiter l'autobiographie autant par l'imaginaire, et que ça ait autant le sens du vrai.
Et que l'émotion passe par autre chose que les visages. C'est intéressant, ouais. Vous parliez des visages, ils sont assez inexpressifs, enfin, sauf dans le côté cartoonesque.
Oui, alors le père sourit beaucoup, encore une fois, mais en effet, il manque des bouches. Ted bien souvent, n'a pas de bouche. Les silhouettes sont aussi très très parlantes, au-delà même des visages. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est sa rupture graphique quand elle signifie la colère et la haine. Elle parce que le trait, depuis Ted, le trait, c'est quand même a été travaillé, il s'est transformé, je trouve. Il a gagné il s'est enrichi, il a gagné en détail. Et quand elle part dans la description des colères, là, pour le coup, pas du tout intérieure, mais quand elle se déclenche vraiment, quand Ted tout à coup part en colère, ou elle, l'adolescente, elle a un trait beaucoup plus épais au, oui, crayon de papier, qui est très réussi. En fait, il y a vraiment une question de rythme aussi, hein, dans le livre. Les cases, il y a tantôt des cases bien dessinées, tantôt ce n'est qu'un seul, avec un seul trait, une ligne comme ça qui tient la case, et puis tantôt ce sont des dessins qui volent dans la page, un petit peu comme ça. Et tout ça contribue au rythme, et je trouve que, par exemple, il y a une scène aussi où quand ils partent en avion, donc ils finissent par arriver à prendre l'avion après la scène que vous avez décrite, Marie, ils finissent par monter dans l'avion. Là, eh ben, on a une double page où ils sont tous alignés comme ça sur leur siège d'avion. Ils peuvent pas beaucoup bouger parce qu'ils sont contraints par leur ceinture. Et là, tout le rythme va, là, pour le coup, être dans les dialogues, en fait. C'est les dialogues qui tout à coup insufflent l'énergie dans la case. Et c'est vrai que vous parliez du langage de l'autobiographie dessinée graphique. C'est vrai que moi, ça m'a fait penser, mais dans le pendant vraiment très lumineux d'un livre qui s'appelle L'Ascension du Haut Mal de David Bay, qui est un livre qui est paru dans les années 2000, où David Bay raconte la maladie de son grand frère qui souffre d'épilepsie. Et il est question là aussi de place dans la famille. Quand on est le petit frère, comment cette maladie rebondit, enfin, fait ricocher plutôt sur tous les membres et sur toute la dynamique familiale.
Mmh. Lucie, ça va?
Oui, tout à fait. D'autant que l'Ascension du Haut Mal a révolutionné aussi l'autobiographie en BD, mais c'est du noir et blanc, c'est très sombre, et ce qui jaillit de Emily Gleeson, c'est une forme de joie. C'est la joie de la bizarrerie, c'est la joie de la différence, c'est célébrer ces couleurs, c'est pétant, c'est un cirque, et il y a une espèce de jouissance dans le grand cirque. Alors je disais que voilà, je partirai pas en vacances avec elle, enfin avec sa famille, je partirai peut-être un petit peu après cette conversation avec vous, Catherine, en tout cas par intermittence, les regarder derrière la porte, parce que ça ouvre l'esprit, hein. Enfin, c'est des livres qui ouvrent l'esprit, alors qu'on pourrait penser que c'est des récits un peu narcissiques. Au contraire, là, on a envie d'aller vers les autres, et même d'essayer de se mettre à la place, justement, de ces familles qui doivent gérer le handicap et qui sont aussi cette cellule familiale dans le monde. Mmh, et comment on les regarde.
Ça tient peut-être aussi au fait qu'elle ne dit pas « je », elle se place en hauteur, enfin, en tout cas, à l'extérieur.
Oui, oui, c'est vrai. En tout cas, si on connaît pas son histoire, si on n'a pas lu Tête drôle de coco, on ne sait pas, voilà. Mais bon, après, moi, j'ai vraiment eu du mal à ne pas la voir, oui. Voilà.
Après, sûr, elle remercie sa famille à la fin.
Oui, voilà. Ouais. Il y a, et puis, je ne sais plus ce que.
Ah,
J'ai perdu le fil.
Bon. C'est pas grave. De toute façon, on va passer.
Non, je voulais dire que oui. c'était. On parle d'une famille avec un membre de cette famille qui est en effet qui souffre d'un handicap. Du spectre autistique, mais je trouve que ça parle vraiment de toutes les familles. C'est pour ça, cette quête de la famille idéale qu'on nous rabâche à longueur de publicité, de séries télévisées, de films, etc. Bah, je trouve que c'est une critique féroce contre ce modèle et que je trouve assez jouissif.
Les Gugus en vacances d'Emily Gleeson aux éditions Atrabile est sélectionné pour le prix des Inrocks de la meilleure BD 2025. Et voilà, c'est l'heure du coup de cœur de Lucie. Sanglier.
Alors voilà, Sanglier, de Lisa Blumen. Donc, faudrait peut-être commencer d'abord par la couverture, puisque Sanglier évoque la chasse, évoque la forêt sauvage. Et là, on est sur une couverture avec un visage de femme. Sanglier est écrit très élégamment, comme sur une marque de produit de beauté, en relief, enfoncé. Et pareil, donc on a ce visage de femme avec cette femme qui est en train de se passer du blush, de se maquiller, et dans l'œil de cette femme, il y a un œillet lui aussi en surbrillance, qui peut évoquer le reflet de la caméra qui est en train de se filmer, ou la désigne aussi comme cible. Je trouve que c'est une très très belle couverture qui condense en fait l'intrigue de ce livre qui parle. Donc ce visage, c'est Nina. Nina, elle est maquilleuse professionnelle, mais elle aspire à devenir une star des réseaux sociaux. Elle est en tant qu'influenceuse beauté, et elle s'appelle Nina Makeup. Et il y a vraiment, on rentre dans ce quotidien par l'envers du décor, en fait, de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière ce travail, parce que c'est vraiment un travail, c'est du quotidien de cette influenceuse beauté. Et il y a une grande solitude, il y a beaucoup de travail, enfin c'est une activité harassante. Elle est dans son quotidien, elle se filme en permanence pour essayer de, elle devient un peu l'esclave des réseaux. Et surtout, quand elle tire les rideaux de chez elle, sur le trottoir d'en face, il y a cet homme qui la regarde, dont on voit pas le visage, qui a une capuche et qui aimante à lui toute l'angoisse, toute la menace, qui peut aussi être celle de tous les commentateurs anonymes, enfin toute cette espèce de réalité qui est le harcèlement des réseaux et la surexposition de ces influenceuses beauté. Là où je trouve que on est vraiment dans un livre, moi, qui m'a parlé, c'est vraiment le pouvoir de la fiction pour presque transcender le documentaire. Ça se passe par la couleur, puisqu'on est vraiment dans une écriture qui est un thriller, avec des jeux de cadrage qui sont très cinématographiques, et surtout cette ambiance rose. On est dans le gloss, on est dans le rose bonbon, le rose chair, enfin le violet, etc., pour quelque chose qui est très 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 sombre. Et là où je parlais de fiction, c'est que on a quelque chose de très clinique, hein, sur la description de la vie d'une influenceuse. Et là, Lisa Blumen, elle met un espèce d'élément perturbateur. C'est le motif du sanglier, mais c'est aussi le motif de cette rencontre avec cette femme qui est Uma, qu'elle rencontre sur un tournage, qui est ingénieure du son et qui est vraiment son opposé, puisque Uma se maquille pas. Uma va voir les Vulves Assassines en concert. Elle est très punk. Elle écoute donc Queen Kong, la fureur. Et cette manière de ramener du punk dans l'archétype de l'ultra-féminité, de la marchandisation du corps des femmes, ça crée une espèce d'alchimie. Donc on parlerait de sororité, parce qu'en fait cette femme va lui tendre la main, et c'est l'histoire de cette amitié. Et là, je trouve ça très très fort de passer du rose bonbon au rose rebelle, et de devenir comme ça à travers un album qui est très punk. Et donc voilà, c'est Lisa Blumen, c'est Sanglier, et c'est à l'employé du mois. Candice, I'd like to know completely what all the so discreetly talk about.
Candy Says par le Velvet Underground, cette Candy également célébrée dans Walk on the White Side par Lou Reed. Cette Candy-là donc, c'est Candy Darling, une femme trans, actrice, star de la Factory d'Andy Warhol. Elle est au cœur de la bande dessinée Candy Superstar et les muses du pop, que l'on doit à la scénariste Claire Translate et à l'illustrateur Livio Bernardo. L'album s'ouvre à New York en 1963. Les endroits qui acceptent les personnes homosexuelles et ou transgenres dans leur clientèle sont rares. Candy et ses amis doivent faire face à l'hostilité, à la violence, mais elles font aussi partie du New York underground et arty. Cette BD retrace leur vie quotidienne, leurs rêves, leur réalité moins rose, et aussi toute une époque où se croisaient Warhol, Janis Joplin, Lou Reed et Valérie Solanas, entre autres. Un avis rapide, Catherine Robin.
J'ai trouvé le livre intéressant pour l'histoire elle-même, ce New York que vous décrivez, Marie, ces trois personnages queer autour de la factory d'Andy Warhol. J'ai trouvé aussi intéressant pour ce qu'il dit de notre époque et de l'évolution de notre regard sur la transidentité et des récits qui s'écrivent à ce propos. Après, je dois reconnaître que le livre en lui-même m'a resté, je suis un peu restée sur ma faim parce que je l'ai trouvé un peu trop dilué et avec quelques maladresses.
Lucie Savin.
Ben moi, je pense pareil. Ce livre, on a envie d'aimer. C'est des livres nécessaires hein, pour mettre en perspective hein, un peu l'histoire, non seulement de la transidentité, mais de toute la révolution queer qui commence en fait dans le New York de ces années-là. Et surtout cette idée qui est de revenir sur ces paroles de Lou Reed, hein, de Walk in the Right Side, et de ces petits portraits en strophe qui sont lapidaires et qui présentent finalement ces portraits de femmes trans, mais à travers la prostitution et la drogue. Donc il y a vraiment une volonté de rentrer et de redonner le portrait de ces personnages. Ensuite, il y a un piège. Le piège, c'est que c'est foisonnant, c'est qu'on est à la fois dans la factory d'Andy Warhol, avec cette capacité qu'a Warhol de tout cannibaliser, et c'est ce qui fait un peu dans ce livre, et derrière tous les mouvements de lutte, la révolution queer qui a, à mon avis il y a des maladresses dans la narration je suis d'accord avec vous Catherine, sur la maladresse de la narration, de trop en dire, et donc du coup de faire une juxtaposition d'épisodes d'une manière très linéaire qui empêche peut-être de voir toutes les sciences et d'avoir un propos plus clair.
Catherine Robin.
Oui, c'est ça. Enfin, moi, je suis totalement d'accord. C'est une biographie chorale. Elle a choisi trois personnages principaux, mais dès la couverture, qui est très belle. Hein, le dessin, on peut en parler un tout petit peu. Le dessin, c'est un trait très sec, très nerveux, qui m'a fait un peu penser à Cabu, qui pourrait être, enfin, en tout cas, qui est un descendant de Cabu, je dirais. Mais donc sur cette couverture, on voit ces trois silhouettes très belles de Holly. À chaque fois, il faut que je me remette la chanson de Lou Reed en tête.
Jackie
et voilà. Holly. Et Candy, merci. Qui sont surplombés, bien évidemment, encore une fois, par...
Andy Warhol,
excusez-moi.
On est fatigué aujourd'hui.
Pardon. Mais dans le fond, on voit aussi Valérie Solanas. On la distingue si on connaît sa silhouette assez caractéristique, et ainsi que celle de Lou Reed. Et ça dit tout. Ça dit que elle a choisi cette forme. Ils ont choisi tous les deux d'ailleurs cette forme chorale, mais qui fait que cette visée biographique, elle se dilue dans une histoire plus large. Et en plus, qu'on connaît déjà, qui a beaucoup été raconté. C'est-à-dire que les tirs de Solanas sur Andy Warhol, on les connaît, les colères hallucinantes de Lou Reed et leur consommation de drogue avec Nico, on connaît, enfin voilà, donc plutôt que de se concentrer sur, on voit aussi des personnages qui arrivent et qui repartent, genre Edie Sedgwick qui était une muse de Warhol, elle vient sur trois pages, elle arrive sur trois pages, elle parle un petit peu à Solanas et puis hop, elle disparaît. Mick Jagger, pareil, il est là, on le voit un petit peu, d'ailleurs on pourra en reparler peut-être sur son dessin et sa représentation, mais on le voit un petit peu, mais bon, ça donne un contexte, ça donne un panorama de là où se trouvent tous ces personnages, mais ça dit pas grand-chose. Alors après, elle dit quelque chose, c'est qu'elle a souhaité, Claire Translate, elle a souhaité faire un récit bienveillant à l'égard de ces personnages. Elle le dit dans le dossier de presse, voilà. C'est d'autant plus compréhensible que c'est un récit de réappropriation. Claire Translate est aussi une femme trans qui se réapproprie aussi l'histoire des personnages de la communauté, et elle dit pratiquer l'histoire de sa communauté permet d'identifier le chemin parcouru avant nous et celui qui reste à atteindre pour l'équité. Elle le formule en exergue. C'est le programme, et je comprends très bien ce souci de bienveillance, d'autant plus après tout ce que vous avez décrit sur le rejet, l'ostracisation, la violence que ces personnes ont subi, et sauf que la bienveillance, elle peut avoir une vocation pédagogique édifiante, mais moi je trouve qu'elle oblitère quelque chose du réel. La part sombre, la complexité des personnages, voilà. La bienveillance, c'est ce qui fait à la fois la grande qualité du livre et aussi son défaut.
Lucie Servin.
Oui, tout à fait, parce que voilà, donc il y a plusieurs choses qui ont été dites, mais c'est vrai qu'il y a peu de, on reste en surface, il y a peu d'approfondissement de l'ambiguïté qu'on aurait aimé voir dans ce livre. Donc c'est une chronologie très linéaire. On sent qu'il y avait avait beaucoup d'événements, donc ils ont été remis en ordre par une chronologie linéaire qui est parfois un peu maladroite, parce que ça juxtapose des choses, et puis en plus il y a des didascalies qui sont pour moi un petit peu insupportables, genre quand on dit la fête touche à sa fin, enfin on a bien compris dans une case de BD qu'on passe de l'un à l'autre. Mais après, sur la question du manifeste queer et le manifeste politique, peut-être que on aurait eu envie que ça aille plus dedans, que les manifestations de Stonewall, par exemple, qui sont un épisode mythique avec ce personnage de la militante Marsha Johnson, qui est aussi un emblème, aurait pu prendre un peu plus d'ampleur plutôt que encore une fois la tentative d'attentat de Warhol qu'on connaît par cœur. De la même, je trouvais que Valérie Solanas était un petit peu caricaturée et que on aurait aimé, par exemple, peut-être plus comprendre ce qu'il y avait dans ce fameux scénario que Warhol lui a refusé. Lui a volé, de quoi ça parle dans ton cul, voilà. Et c'est le nom du scénario. Hein, c'est pas, voilà. Non, mais de la même manière que il y a ce film Woman in Revolt qui arrive à la fin
de Morisset,
de Morisset, où les trois muses du pop sont rassemblées et qui est une satire du MLF voulue par Warhol, mais comme il a ces acteurs qui improvisent, on aurait peut-être aimé plonger peut-être plus dans l'œuvre, plonger dans cette question du rapport entre la superstar, donc celle qui veut avoir son quart d'heure de célébrité, comme disait Warhol, et les questions féministes, politiques, etc. Mais après, encore une fois, c'est un livre, à mon avis, qui est à lire. Il en faut plus. Il faut parce que on ne célèbre pas une. Enfin, il faut prendre conscience du chemin parcouru et du revers de bâton qui est en train d'arriver, et même aux États-Unis. Moi, ce que je préfère presque dans ce livre, c'est presque la première scène où on comprend que être trans dans l'Amérique des années 60, c'est risquer sa vie en marchant dans la rue avec une jupe. Mmh. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, et donc il y a quelque chose dans ce livre qui est quand même important.
Et d'ailleurs, la première page s'ouvre avec New York, le ciel de New York aux couleurs du drapeau trans. C'est exactement ça. Oui. Le rose.
Oui, on n'a pas parlé des aplats de couleurs.
On dira quelques mots.
Mais parce que je me suis demandé justement. Alors, il y a peut-être des choses qui m'ont échappé, mais sur les aplats de couleurs, je me demandais si c'était une référence aux photographies sérigraphiées de Warhol, mais je n'y ai pas trouvé beaucoup de sens. Mm. J'ai trouvé que ça me sautait pas aux yeux. Mais en tout D'accord. cas, comme je le partage avec Lucie, ce que vous venez de dire sur le fait que ce sont des récits dont on a besoin aujourd'hui.
Merci beaucoup. C'était donc Candy Superstar et les muses du pop de Claire Translate et Livio Bernardo aux éditions Delcourt. Catherine Robin, Lucie Servin, merci beaucoup d'être venue dans les Midis de Culture. Et merci. Vous qui nous écoutez, maintenant c'est à vous de vous faire une idée.